Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand en compagnie d'Arthur Caillot, l'ado accro au livre, et de Fanny De Citre de la librairie Le Cyprès Jean de la Lune, membre du réseau de librairies indépendantes Initiales. Vous êtes bien sur BAC FM et nous sommes en studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Claire.
Bonjour Fanny.
Bonjour Claire.
Alors comme d'habitude, deux parties dans cette émission. Une première partie de conseils de lecture et en deuxième partie, une interview de notre invité, Raphaël Alix, auteur du roman Le dernier homme du monde aux éditions Les Avrils. C'est l'une de mes plus étonnantes découvertes de ce mois. Mais auparavant, je vais me tourner vers Arthur, qui a lui aussi lu des romans qui vont tenir chaud sous la couette pendant les vacances pour ceux qui en prennent, puisque nous avons de l'humour, un humour science-fictionnel, oui. assez inattendu, et aussi quelque chose de moins humoristique, peut-être une école d'assassins. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, Arthur?
Bon, alors déjà, je vous ai préparé du voyage et de l'évasion, parce qu'on a envie de s'évader un petit peu en ce moment, n'est-ce pas?
Certes.
Eh bien, justement, je vais vous emmener faire un tour 300 000 ans dans le futur. Oui, 300 000 ans.
Quand même, c'est déjà pas mal.
Avec la honte de la galaxie. Puis on partira dans un monde où la nuit ne tombe qu'une fois tous les deux ans avec Nevernight.
Oui, en effet, Nevernight, tout est dans le titre.
Exactement. Alors du coup, la honte de la galaxie, c'est une épopée spatiale formidable, déjantée et extrêmement immersive. C'est un roman de science-fiction inoubliable qui se passe 300 000 ans dans le futur.
Mais alors Arthur, je croyais que vous n'étiez pas trop fan de science-fiction.
Alors c'est vrai que j'aime pas trop la science-fiction, mais là déjà la collection Exprime de chez Sarbacane, c'est une collection que j'adore. Et c'est la première fois qu'il se lance dans la science-fiction, donc j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait. Et j'ai vraiment pas été déçu parce que ce qui caractérise pas mal cette collection, c'est l'émotion. Mais beaucoup aussi l'humour, et il y a énormément d'humour dans ce roman.
Donc on peut le conseiller aussi aux personnes qui ne sont pas habituellement lectrices de science-fiction.
Oui, totalement. Dedans, on a un personnage brut du décoffrage, un vaisseau spatial intelligent, une nouvelle espèce extraterrestre et un mystère insoluble.
Ah,
et c'est,
ça promet.
C'est une réussite phénoménale.
Bons ingrédients.
Bon, maintenant que j'ai titillé votre curiosité un petit peu, tout du moins je l'espère.
Ah oui.
Je vais vous parler un peu de l'histoire. Merima est une jeune fille de 17 ans qui vit sur Frontière, une planète glauque au fin fond de la galaxie.
Une planète glauque?
Oui, glauque. Elle est... Il y a des trafics de drogue, il y a... Tout le monde vit dans la misère, etc. Donc c'est un peu...
Ça rappelle glauque. Une autre planète que je connais, non? Mais oui, continuez, Arthur.
Bon, et elle vit là-bas depuis qu'elle a été déchue de son poste de pilote d'élite. Là-bas, elle s'occupe d'un orphelin qu'elle a sauvé de justesse et elle se drogue à la spéculine, de la nostalgie en poudre, pour noyer sa mélancolie.
Ouf, je sais pas si la nostalgie soigne la mélancolie, oui. C'est original.
Bref, elle ne mène pas une vie très très joyeuse, comme vous avez pu le voir.
Oui.
Mais un jour, un vaisseau de la flotte impériale arrive sur Frontière pour lui demander ses services. Ils veulent qu'elle les aide à explorer une planète qui pourrait abriter une forme de vie inconnue. Merima saute sur l'occasion de quitter son quotidien misérable, évidemment. Mais le chemin pour qu'on ne la considère plus comme une traîtresse risque d'être long. Surtout si elle doit faire 4 ans de voyage à bord du vaisseau en tant que serveuse.
Ouf, oui, ça fait envie tout de suite. Hein.
Voilà, donc on lui dit vous allez explorer une planète et tout, mais elle devient serveuse.
Bah, surtout pendant 4 ans.
Surtout que il va y avoir des péripéties alors.
J'imagine.
Voilà, donc c'est un coup de cœur cosmique, même intergalactique, pour ce roman de science-fiction très original aux allures de Star Wars ou de Gardiens de la Galaxie. J'ai adoré le côté immersif parce que les 30 premières pages sont des documents très intéressants qui vont nous résumer ce qui s'est passé ces 295 000 dernières années, ce qui nous permet ensuite de nous plonger directement dans l'histoire, dans un univers dont on connaît déjà tout. En plus, ces documents sont très humoristiques et on en apprend beaucoup sur le monde sans être saoulé.
Mmh. Oui, parce que c'est vrai que parfois la présentation des univers, parce que résumer 295 000 ans,
oui,
ça pourrait paraître
mais en plus, c'est
ennuyeux,
assez court,
mais non.
Hein, une trentaine de pages. Quoi.
Et puis c'est bien fait.
Très très bien fait. Quand je lisais le soir, justement, j'avais l'impression de voyager dans l'espace et c'est une sensation très agréable.
Oh bah, je la souhaite à tous les auditeurs.
Aussi, j'ai adoré la Dorine de ce roman qui est très amusante et a un franc-parler incroyable. Ça rajoute une touche d'humour encore à ce roman et ça permet de le rendre encore meilleur.
Et déjà, le titre, La honte de la galaxie, donnait une idée de la tonalité.
Même le résumé, si vous lisez le résumé, il est très... Il donne la tonalité totalement. Et puis, l'univers créé par l'auteur, il dénonce certains aspects de notre société qui perdurent depuis des siècles et qui continuent dans le futur, comme la guerre de territoire, l'inégalité sociale.
Oui, un thème un peu intertemporel, on
exactement,
va dire.
Exactement, oui. Bref, si vous avez peur de lire de la SF, n'ayez crainte. Il est totalement déjanté, très immersif, plein d'action, d'originalité et d'humour.
Alors moi qui aime déjà la SF, je vais me régaler.
Bref, du coup, je lui trouve aucun défaut et c'est rare.
Ouf, merveilleux. Donc c'est votre numéro 1 sur le piédestal.
Ah bah, j'avoue que si c'est un de mes coups de cœur 2021, même si ça n'a pas commencé depuis très longtemps, mais je pense qu'il peut se retrouver dans mes...
Il tient la
mon
corde.
Top 10. Exactement.
Alors, est-ce que le deuxième
oui. bah,
est bien parti aussi
oui. bah, je vous ai fait voyager dans le futur, alors on va plonger dans un monde où le soleil ne se couche qu'une fois tous les 2 ans maintenant.
C'est assez... Déjà, oui. ça fait un peu peur.
Bah, c'est un monde inquiétant et assez envoûtant, hein, Nevernight. Et malgré ces 750 pages, oui, c'est une bricasse, il m'a fait passer un moment formidable parce que ces 750 pages sont un concentré d'originalité, de meurtre, de trahison... de suspense, de mystère et d'épreuves déconcertantes.
Alors, dans la liste que vous venez d'énumérer, certains mots sont plus attirants que d'autres.
Bah, lire des meurtres, c'est drôle.
Un concentré de meurtres. Alors, donc, allons-y pour ce concentré de meurtres.
Bon, justement, pour vous donner l'eau à la bouche, je vais essayer de vous faire un petit pitch de l'histoire. Toute la famille d'Omias est faite assassiner pour trahison politique. La jeune fille a réussi à s'échapper de peu et à trouver refuge chez un tueur à la retraite. Il va la former et le jour de ses 16 ans, il l'envoie à l'Église Rouge, une école top secrète où elle suit une formation pour devenir assassin à son tour.
Ouf.
Commence alors une lutte sans merci pour réussir les épreuves que leur font subir les professeurs. Parce que ces épreuves, elles sont incroyablement bizarres.
Ah oui.
Bah, y a une professeure, pour voir si ses élèves sont réactifs, elle va essayer de les empoisonner.
Voilà. Pour savoir s'ils sont
c'est bien une école d'assassin.
Oui, c'est voilà, c'est on est tout de suite voilà. mis dans l'ambiance, dans
oui,
le bain.
Oui.
D'accord.
Mais c'est très original vraiment toutes ces épreuves, à chaque fois on s'attend pas à ça.
Ah non, en effet, l'élève qui le professeur qui empoisonne ses élèves, c'est quand même assez original hein. C'est sûr.
Bon, heureusement que chaque élève a déjà un bon niveau, mais le problème c'est que du coup on sait pas à qui se fier quoi. Et le but de Mia, ça va être de réussir à devenir une lame pour pouvoir venger sa famille. Mais elle a un atout dans sa poche, c'est une enténébrée. C'est-à-dire qu'elle possède un non-chat qui peut aspirer ses peurs.
Un non-chat.
Oui, parce qu'en fait, le non-chat, c'est pas un chat, c'est une ombre.
D'accord.
Et du coup, c'est un non-chat.
Donc c'est un univers non euclidien, peut-être. Je ne sais pas.
On verra. On va pas s'attarder sur la question.
Oui.
Ce roman, du coup, est un tour de force magistral. Comme dans La honte de la galaxie, l'univers est complexe mais extrêmement bien expliqué. On s'imagine parfaitement les lieux, les personnages et les créatures. On a vraiment l'impression d'y être. En plus, l'écriture est fluide et j'ai bien aimé le fait que l'histoire soit racontée par un narrateur extérieur parce qu'il va expliquer comment fonctionne le monde de Mia dans des notes de bas de page et rajouter des touches d'humour sur l'histoire de Mia parce qu'il va raconter l'histoire de Mia. Voilà.
Et c'est très immersif et en même temps un petit côté réaliste avec des petits faits vrais qui sont disséminés dans le
exactement.
Roman.
Exactement. On va en apprendre sur l'histoire et... du coup, moi, j'ai passé un excellent moment à l'église rouge. Bon, même si j'aimerais pas y être. aux côtés de Mia, Trick et Ashlyn, et je n'avais pas envie de les quitter. Et l'histoire est époustouflante et je regrette déjà de l'avoir fini, même si il m'a bien tenu une semaine avec ses 750 pages.
Oui, ça, j'imagine, 750 pages. Mais donc, ça se lit
ah
tout
oui,
seul.
Ah oui, ça se lit vraiment tout seul.
Oui. Ça passe sans problème.
C'est pas, y a aucune longueur. Bah, moi, j'ai trouvé aucune longueur et... C'est rare aussi.
C'est rare aussi. Donc, que des raretés en ce mois de février.
Exactement.
Quel bonheur.
Du coup, j'ai trouvé aussi très original l'existence d'une école d'assassins. On ne voit pas ça tous les jours. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans le tome 2.
Ah, parce qu'en plus, c'était seulement le premier volume.
Et le tome 2 arrivera au printemps, normalement. Donc, c'est bientôt.
Je vois. C'est l'anti-école, par exemple, à la Harry Potter. On n'est pas du tout dans une école du bien, mais une école,
c'est sûr.
Une école des méchants. Et je crois que vous aviez prévu de lire un extrait, mais en fait, ce sera un non-extrait, puisqu'il n'y a pas d'extrait.
Oui.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Arthur, pour ces suggestions qui sont des vraies, pas des non-suggestions pour les auditeurs. Oui. Et j'invite bien sûr les auditeurs à aller consulter vos comptes Facebook et Instagram, l'ado accro au livre, sur lesquels, bien sûr, ils trouveront d'autres suggestions dans tous les genres, en fait, hein, puisque vous balayez toutes sortes de genres, même ceux que vous n'aimez a priori pas, puisque vous chroniquez aujourd'hui de la science-fiction. Donc, il y a vraiment de tout pour tous les goûts.
Exactement.
Et nous allons tout de suite faire une première pause musicale avec l'un des choix de l'auteur, justement, puisqu'il y a une playlist.
Dans la Honte de la Galaxie, l'auteur fait une playlist au début. Donc on se quitte pour le moment avec une des musiques de Blade Runner.
Alors, nous venons d'écouter un morceau extrait de la bande originale du film Blade Runner, qui faisait partie de la playlist de l'auteur de La Honte de la Galaxie. Vous êtes de retour sur Bac FM dans les voies du livre. Et là, alors, changement de décor total, puisque nous allons quitter la science-fiction et le fantastique pour, eh bien, pour un univers de lapins.
Oui.
Je suis avec Fanny de Citre de la librairie Le Cyprès-Jean de la Lune qui va nous parler d'une histoire.
Dit comme ça, c'est un peu particulier. Mais oui, alors je vais vous présenter deux livres et les deux livres sont des livres anglais. Et je commence par ce livre sur les lapins qui s'appelle Watership Down, écrit par Richard Adam en 1972. C'est un livre qui a eu un énorme succès à la publication. Il y a eu des millions de ventes de cet ouvrage qui était destiné au départ à la jeunesse. Évidemment, une histoire avec des lapins, une histoire d'aventure, voilà, c'était plutôt conseillé pour les enfants. Aujourd'hui, c'est un peu différent et à juste titre, je trouve, parce que c'est une histoire qui est éminemment complexe.
Avec plusieurs niveaux de lecture.
Avec énormément de niveaux de lecture. On peut lire ce livre, en effet, comme une aventure, où du coup, très rapidement, l'histoire, c'est des lapins qui vivent dans une garenne. Et un des lapins a des visions et sent que la garenne est en danger, que la garenne risque d'être détruite. On comprend, nous, lecteurs, qu'elle va être détruite par des humains, parce qu'ils vont construire un parking ou un immeuble, je ne sais plus exactement. Mm-hmm. Et ce lapin, à l'aide de son frère, ils vont essayer de prévenir le maître lapin, donc le chef de la tribu lapin, pour que tout le monde prenne la fuite. Et personne ne les croit. Donc, ils décident de partir tous les deux en emmenant avec eux pas des adeptes, mais des gens qui vont croire ce lapin. Et c'est le début de cette aventure où ils vont chercher une autre garenne pour pouvoir vivre.
Alors, c'est un petit peu une fable philosophique, quelque part.
Oui, ça peut l'être. Et c'est en tout cas un univers où on peut retrouver, par exemple, une critique du totalitarisme, parce qu'ils vont arriver dans... Ils vont connaître plusieurs garennes différentes au cours de leur périple. Des garennes où vraiment c'est un espèce de despotisme, où ils se rendent compte au fur et à mesure que les lapins ne sont pas du tout heureux malgré les apparences. Il y a plein de formes, en fait, de pouvoir qui sont présentées.
Des sociétés différentes.
Des sociétés différentes, voilà. Et il y a par exemple juste une garenne où les lapins sont tous en très très bonne santé, sont très gros, ont l'air très très heureux. Donc ils se disent c'est parfait, on va s'installer ici. Avant de se rendre compte qu'en fait ces lapins vivent sur les terres d'un fermier qui les nourrit. Mais en échange de quoi, ils capturent des lapins pour les manger. Donc en fait, ils vivent dans la peur d'être capturés. Enfin, bon.
En effet, ça ne sonne pas tout à fait pour les enfants.
Non, et c'est déjà assez sombre comme histoire. Ça peut être c'est assez
être
violent parfois.
Être engraissé pour être dévoré, c'est moyennement agréable comme perspective.
Non, je trouve pas non plus. Et c'est aussi il y a toute une mythologie. Chez ces lapins où ils ont une religion, et ça c'est entrecoupé entre chaque chapitre. On a une histoire du dieu lapin, et je vais pas trop en dire, mais voilà, ils ont une religion, ils ont un vocabulaire qui est très intéressant aussi. Enfin, moi je dis toujours ces mots. Par exemple, les lapins vont farfaler, et ça veut juste dire qu'ils sortent manger à l'air libre. Ils vont manger de l'herbe, enfin voilà. Et il y a un vocabulaire pour chaque situation que j'ai trouvé très intéressant. Par exemple, les voitures qui sont un danger, ils appellent ça des cataclopes. Ils comprennent pas ce que c'est une voiture, mais ils l'identifient quand même. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que les lapins ne sont pas humanisés. C'est-à-dire qu'ils restent des lapins avec leur réflexe de lapin. Ils vont se tétaniser d'un coup comme des lapins. Ils se reproduisent beaucoup comme des lapins.
Bien sûr.
Et donc, ce qui fait qu'on ne s'identifie pas forcément à eux et qu'on a l'impression de vraiment presque lire un documentaire sur la vie des lapins. Et d'ailleurs, l'auteur s'est beaucoup inspiré de la vraie vie des lapins, entre guillemets, mais c'est beaucoup documenté sur leur mode de vie, leur façon d'interagir entre eux.
Donc c'est à la fois un miroir, mais un miroir déformé ou déformant de certaines formes de société humaine.
Exactement, et c'est pour ça que je trouve ça un peu complexe à lire pour un enfant peut-être. Et c'est aussi le côté un peu compliqué de ce livre-là, c'est que les adultes n'ont pas forcément envie d'aller vers cet ouvrage parce que Histoire de lapin, ça les fait pas rêver.
Oui, alors qu'en fait, ça a l'air passionnant. Enfin,
c'est passionnant.
Je trouve ça très intriguant et j'ai très envie de lire
cette
histoire.
C'est un livre majeur. Il est culte, ce livre. Vraiment, il ne faut pas avoir peur on va pas lire un roman pour enfants. C'est,
oui. C'est ce que vous en dites ne nous laisse pas du tout penser qu'il s'agisse d'un roman pour enfants. Oui. Peut-être que les enfants peuvent aussi y trouver du plaisir parce qu'il y a de l'aventure, parce que c'est des animaux. Mais c'est peut-être un peu comme Alice au Pays des Merveilles où on a beaucoup de niveaux de lecture et certainement pas un niveau seulement seulement trop terre à terre. Alors moi je suis quand même assez admirative aussi du travail du traducteur parce que ce dont vous parlez, les voitures qui sont les cataclopes, farfalées.
Il y a eu plusieurs traductions et je comprends parce que c'est extrêmement complexe et surtout ce que je voulais rajouter c'est que la langue est très très belle. C'est une écriture qui est vraiment fouillée, enfin qui est travaillée. Donc oui, chapeau au traducteur. En tout cas, moi, la version que j'ai lue, c'est dans les éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture.
Ah oui, excellent.
Et d'ailleurs,
éditeur.
Ils ont sorti Watership Down récemment dans la collection Les Grands Animaux. Je ne sais pas si vous voyez ces livres qui sont magnifiques.
Oui,
enfin, moi, j'adore. C'est des objets absolument superbes. Donc, ce qui ne gâche rien.
Tout à fait. Donc, ça n'est pas qu'une histoire de lapin.
Non.
Et redécouvrons les humains à travers les lapins.
Exact.
Alors,
c'est bien résumé.
Vous nous parlez après d'une histoire qui n'a rien à voir avec les lapins.
Qui n'a rien à voir. le point commun, c'est que c'est également un livre anglais. C'est une auteure britannique qui s'appelle Daisy Johnson. Ça vient de sortir. C'est sorti il y a quelques semaines. Ça s'appelle Sœur, au pluriel. Et alors là, c'est une histoire qui, moi, m'a vraiment, je dirais presque, ensorcelée. Parce que c'est un peu ce qu'on ressent quand on ouvre ce livre. On comprend pas trop où on va. On est toujours entre un peu rêve et réalité. On est toujours un peu sur un fil en équilibre. Pour vous résumer l'histoire assez rapidement, c'est l'histoire donc de deux sœurs, Juillet et Septembre, qui ont 10 mois d'écart, du coup. Et qui sont dans une relation assez complexe également.
Souvent, les relations entre sœurs sont complexes, en effet.
C'est une relation très, très forte. Mais on sent qu'il y a une domination de la part donc de Septembre, qui est l'aînée, qui fait un peu de sa sœur ce qu'elle veut. Et il y a à la fois énormément d'amour. Bref, ces deux sœurs déménagent avec leur mère à la suite d'un incident qu'on ne connaît pas. Elles déménagent dans une maison un peu en ruine, un peu presque hantée. Il y a des sons, il y a des bruits la nuit, voilà, qu'on comprend pas tellement. Et on sent que dans cette, vraiment, c'est très onirique, c'est presque gothique, un peu comme un conte de gothique. Ouais, voilà, il y a cette mère qui est très effacée. On ne la voit jamais. On sait qu'elle est là, mais on sait qu'elle est très distante avec ses filles. On comprend pas pourquoi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mmh. Et moi, c'est ce qui m'a fait un peu peur en lisant ce livre, en me disant je ne vais rien comprendre à la fin de plus que ce qu'on me dit et ça m'agace.
Vous aviez peur d'être déçue.
J'avais peur d'être déçue et je ne l'ai pas été.
Mais c'est parce qu'une fois vous aviez été très déçue. Depuis, vous avez peur des fins.
Voilà. J'ai peur de ne pas savoir où l'auteur veut m'emmener. Mmh. Et là, vraiment, on n'est pas déçue. Tout est résolu. On en sort quand même. C'est entre rêve et cauchemar. C'est parfois glauque, c'est parfois dur. Il y a aussi énormément d'amour. Enfin, cette relation entre sœurs est très très intéressante. Et j'aime bien ça aussi quand on ne comprend pas forcément les personnages.
En tout cas, pas tout de suite et pas tout d'un coup.
Pas tout de suite. Non, mais même à la fin du livre, ces deux filles. Ces deux sœurs sont des personnes que moi je n'ai jamais rencontrées, par exemple, ou leur logique n'est pas la mienne, ou je comprends pas forcément ce qu'elles font, ce qu'elles ressentent.
Et on éprouve un sentiment d'étrangeté.
Ouais,
un peu comme face au lapin finalement.
Oui.
Non, mais d'une manière tout
si
à
on
fait
veut trouver
différente.
Un
mais
lien.
Je crois qu'il y a également une question de fil narratif chronologique, déchronologique dans
ce
roman.
Oui, parce qu'on arrive donc dans cette maison où cette famille a déménagé, en sachant qu'elles ont déménagé donc suite à un incident. C'est
le
comme
fameux
ça,
incident.
Cet incident. Et on va avoir des flashbacks tout au long de l'histoire qui vont nous amener au fur et à mesure jusqu'à l'incident et à comprendre ce qui s'est vraiment passé, ce qui les a poussés à déménager.
Mais ce qui est intéressant aussi dans ce roman, c'est que même une fois qu'on comprend quel est cet incident, ça n'enlève rien ni au charme, ni à l'envoûtement.
Du tout. Mais on est content. On est content d'avoir la réponse parce que elle nous tient en haleine
depuis le début.
Mais tout est bien fait, tout est fait en finesse. C'est un livre vraiment extrêmement beau,
avec une écriture qui à l'avenant.
Oui, parce que du coup c'est très même l'écriture est mystérieuse. C'est des phrases un peu flou, un peu mais très très bien poétique. Enfin, c'est plein de métaphores, c'est parfois des phrases courtes. C'est vraiment, c'est très inventif. Vraiment, j'ai adoré ce livre.
Donc, on est vraiment dans une atmosphère, effectivement, qui, d'après ce que vous dites, a quelque chose d'un peu gothique.
Oui,
en effet.
Ouais, ouais. Et puis, c'est aussi l'adolescence. Donc, c'est cette période un peu forte, un peu dure pour ses sœurs, en tout cas, qui ajoute, voilà, un côté un peu rebelle, un peu sombre.
Et les relations entre les sœurs sont également complexes.
Elles sont très très complexes. Elles sont très complexes parce que ce que je disais, il y a une domination d'une sœur sur l'autre, mais une domination qui est acceptée par l'autre sœur et qui dépend en fait. Enfin, elle vit parce que sa sœur lui demande de faire. Donc c'est des questions aussi d'identité. Enfin, je voudrais pas trop en dévoiler.
Ne racontons pas la fin. Je connais la fin, donc je ne vais pas non plus dévoiler quoi que ce soit. Mais donc, c'est plutôt un roman qui va plaire à des lecteurs qui aiment les ambiances, les atmosphères et les relations un peu compliquées entre les personnages.
Ouais, exactement. Et je me dis même... Moi, j'ai pas de sœur, par exemple. Ça m'a plu quand même. Mais je me dis, quand on a une sœur, ça peut être intéressant aussi de découvrir une autre forme de sororité, si j'ose dire.
Donc, alors, nous allons découvrir en lisant ces romans une forme de sororité, une forme de lapinité aussi. Je vois que nous sommes dans l'étrange et pourtant dans le tellement humain,
oui.
Les romans que vous nous faites découvrir. Donc, j'invite les auditeurs à goûter à cette étrangeté. qui ne peut que nous en apprendre davantage sur notre humanité, finalement. Eh bien, merci beaucoup, Fanny. Nous
Avec
allons découvrir en deuxième partie d'émission donc le roman de Raphaël Alix, qui est aussi un peu étrange, puisqu'il s'agit, il raconte l'histoire d'un homme qui tombe enceint. Donc, nous sommes aussi dans l'étrangeté. Et pour nous préparer un petit peu, eh bien, je vous propose d'écouter son premier choix musical.
Ils attendaient dans la voiture. Ils regardaient tout droit devant. Toujours à la même place. Face au fleuve d'eau, à l'océan. Elle avait le regard éteint. Et lui, les mains sur le volant. Des heures filaient. De vagues.
C'était Dominique A, à la même place, extrait de l'album Vie étrange. Vous êtes bien sur Bac FM, de retour dans les voies du livre. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Alix, qui vient de publier Le premier homme du monde aux éditions Les Avrils. Et c'est son premier roman. Bonjour Raphaël Alix.
Bonjour Claire.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Raphaël Alix, vous êtes psychologue, vous êtes psychanalyste aussi, et vous sortez donc votre premier roman aux éditions Les Avrils. Et vous frappez fort, puisqu'il raconte l'histoire d'un couple de danseurs de tango dont la femme est stérile, mais dont le mari tombe enceint. Ce qui est quand même assez inhabituel. Alors, bien sûr, nous sommes dans une situation qui n'est physiologiquement pas possible, mais qui donne matière à réflexion, beaucoup de matière, sur le rôle du père, de la mère, et sur le rôle des médias aussi. Bref, c'est une histoire qui est présentée de manière tout à fait réaliste. Et le lecteur se laisse d'ailleurs emporter facilement dans ce roman qui a quelque chose d'un conte philosophique. Alors, on a tout de suite envie de savoir comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman.
Ben, il y a eu plusieurs éléments. D'abord, j'avais l'idée d'essayer de trouver quelque chose qui pourrait relever d'une transformation chez une personne, chez un individu, un homme de préférence, qui viendrait toucher son corps. J'ai beaucoup aimé à l'époque le livre de Marie Dariussecq qui s'appelle Truisme.
Ah oui.
Où dans ce roman, qui est une sorte de fable aussi, une femme se transforme progressivement en animal, en truie. Voilà,
oui,
plus précisément.
Tout à fait.
Et j'ai trouvé que c'était une idée de fiction vraiment intéressante. Ça m'intéressait de trouver quelque chose à faire comme ça. Et du coup, j'ai eu l'idée de qu'il puisse arriver à un homme le fait de traverser le phénomène d'une grossesse. Alors,
oui,
j'ai choisi ça aussi parce que ça me permettait de venir toucher à des thèmes qui sont importants, des thèmes contemporains comme la question du genre, de l'assignation des rôles des hommes et des femmes. Enfin, ça permettait aussi d'aller vers le propos.
Donc, à la base, c'était l'idée d'une métamorphose, quelque part.
Oui, quelque chose comme ça. Quelque chose qui n'arrive pas habituellement pour être vraiment décoller quand même du réel, être dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la fiction, qui vient bouleverser un individu dont voilà directement dans son corps. Vraiment, c'est ça qui m'intéressait. Alors, il y a eu aussi un autre élément, je dois dire, important, c'est que quand j'ai entamé l'écriture de ce livre, ma compagne était enceinte elle-même. Elle attendait des jumeaux. Donc, j'étais aux premières loges.
Oui, et c'est une métamorphose aussi.
Absolument.
Un être qui, de seul, devient trois.
C'est ça.
C'est une belle métamorphose. Ça vous a aidé à travailler sur le thème?
Oui, oui, ça m'a aidé parce que c'est quand même un phénomène, la grossesse, qui est éminemment féminin et qui est étranger aux hommes.
Certes.
Alors on peut s'y intéresser, on peut essayer d'être solidaire, d'être avec notre compagne quand ça arrive, mais on reste très étranger à ça.
Oui, d'ailleurs, vous écrivez à un moment dans votre roman, alors je n'ai pas la page exacte, je cite de mémoire, ah ça y est, j'ai la page parce que j'ai le roman sous les yeux, bref, même s'il était médecin, c'est page 157, Martial restait un homme, et comme tous les hommes, il ne se doutait absolument pas de ce qu'est la maternité, de ce qui attend les femmes qui donnent la vie. Là, c'est en fait un peu vous qui parlez.
Oui, 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 tout à fait, il y a quelque chose comme ça. Et voilà, alors c'était aussi un défi pour moi d'essayer d'être au plus près de ce que pouvait être ce phénomène en le décrivant. Hein, et du coup, pour répondre à votre question, ça a été une source d'information très précieuse que d'être aux premières loges avec la grossesse de ma compagne, de voir un peu les choses qu'elle traversait au niveau de son corps, les ressentis qu'elle pouvait avoir. Tout ça a été très, très informatif.
Et alors, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, votre roman repose bien évidemment la question des rôles de père et de mère.
Oui.
Puisque d'ailleurs, à la fin, c'est pareil, je cite de mémoire, vous dites qu'il n'y aura plus vraiment, enfin, que vous n'allez pas élever l'enfant comme un père ou comme une mère, puisque ça n'a plus de sens. C'est quelque chose qui vous paraissait important sur une question sur laquelle vous vouliez vous interroger ou vous souhaitiez apporter des éléments de réponse. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce travail sur les rôles parentaux?
On est quand même dans un temps où on essaye de déconstruire un peu les rôles qui sont préfabriqués, hein, que ce soit du côté du masculin et du féminin, mais c'est aussi valable pour la façon d'être parent. Aujourd'hui, on n'est plus dans le vieux schéma d'antan qui consiste à faire incarner l'autorité, disons, pour être un peu schématique, du côté du père et tout ce qui relève de la douceur et de la tendresse du côté de la maman, avec comme ça une distribution un peu immuable des rôles. On n'est plus vraiment là-dedans, donc ça permettait aussi de venir bouleverser deux personnes qui s'apprêtent à devenir parents, qui, elles, à la base, hein, de Marcus et Rose, des personnages du roman, sont plutôt genrés traditionnellement. C'est-à-dire que ils sont tous les deux danseurs de tango, donc le tango, c'est aussi un peu une parabole de l'assignation du genre. C'est-à-dire que dans le tango, chacun doit jouer son rôle. L'homme a un rôle d'homme qui mène la danse, et puis la femme, elle, se laisse un peu aller, se laisse entraîner. Donc voilà, de venir les bouleverser eux, ça permettait aussi d'éclairer ce que peut devenir la parentalité aujourd'hui. C'est-à-dire, ça peut se diluer un petit peu ces schémas qu'on a de départ, quoi, cette donne de départ.
Oui,
avec la différence marquée entre l'homme et la femme.
J'ai retrouvé le passage en question, c'est à la page 186. Vous écrivez, donc c'est le personnage, c'est Marcus qui parle de Rose, sa femme, donc dans le roman. « Ma femme ne tiendra pas le rôle de père, ni le rôle de père, ni celui de mère », ajoutais-je. « D'ailleurs, moi non plus, je ne serai pas le père ou la mère de cet enfant. C'est bien simple, ni moi ni ma femme n'occuperons un quelconque rôle. » Donc, et vous ajoutez ensuite, enfin, le personnage ajoute ensuite, qui sera papa, qui sera maman? Dans notre cas, cela n'a aucun sens. C'est hors de propos. C'est ce que vous écrivez, enfin, c'est ce que vous faites dire à votre personnage à la page 186. Est-ce que vous avez souhaité écrire un roman à message, une espèce de conte philosophique délivrant un message concernant les rôles parentaux?
Un message, je ne sais pas. Pas forcément un message, mais en tout cas qu'il y ait un propos. Oui, ça c'était important. Et qu'on ne reste pas seulement dans le conte ou la fable, hein, mais qu'on puisse aussi venir toucher à des thématiques qui sont importantes aujourd'hui. Et donc, si un message il devait y avoir, ça pourrait être un encouragement, je dirais, parmi tous ceux qu'on peut entendre aujourd'hui, un encouragement à revisiter un peu les rôles, à les assouplir, à ce qu'il y ait plus de possibilités, à la fois au niveau de la parentalité, mais aussi dans la façon d'être homme ou d'être femme aujourd'hui. Hein, ça serait un encouragement à ce qu'on puisse être un peu plus libre, un peu plus souple dans la façon de se positionner dans ces rôles-là.
Alors, vous avez vous-même des enfants. Est-ce que votre expérience de père, justement, vous a permis de réfléchir à différents éléments que vous auriez inclus dans le roman?
Oui, ça m'a permis d'y réfléchir. Et en même temps, je dirais que moi, je suis aussi issu d'une famille assez traditionnelle, une culture traditionnelle. Donc, j'ai plutôt tendance, moi aussi, à de base... C'est peut-être aussi pour ça que j'ai écrit un livre comme ça. De base, j'ai plutôt tendance à aller vers une distribution assez claire et traditionnelle des rôles dans le couple et dans la famille. Et tout en me rendant compte que c'est plus comme ça qu'il faut fonctionner et qu'il faut essayer d'assouplir les choses. Ce que j'ai essayé de faire, bien sûr, dans ma façon d'être papa. J'ai trois enfants, donc j'ai pu m'y exercer.
Oui, en effet. Et pour vous,
ça a dû influencer un peu l'écriture de ce livre.
Pour vous, c'est constitutif de l'identité d'une personne, cette manière de s'occuper des enfants, parce que finalement, c'est ça que pose, enfin, c'est l'une des questions que pose votre roman. Est-ce que s'occuper d'un enfant fait de nous un homme ou une femme, enfin, nous projette dans un rôle d'homme ou de femme? Est-ce que c'est une des questions que vous vous êtes posées?
Oui, alors, je trouve que c'est... C'est un peu une prescription sociale, notamment du côté des femmes d'ailleurs. Je trouve ça assez probablement assez lourd à porter. C'est C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est une espèce d'indication du corps social qui exige des femmes, en quelque sorte, si elles veulent véritablement devenir des femmes, à être des mères. Bon, ça, je trouve que c'est un petit peu archaïque aussi comme façon de voir les choses. On peut avoir une identité de femme ou d'homme sans forcément que ça passe par le devenir parent, par le fait d'être parent. Ça, j'essaye d'en dire un peu quelque chose aussi dans le livre. Même si, quand on le devient, parent, mère ou père, bien sûr, ça vient aussi dire quelque chose de notre identité. La façon dont on devient père, la façon dont on se comporte en tant que père, en tant que mère, ça vient dire quelque chose de notre positionnement dans la masculinité par rapport à la féminité, probablement.
Est-ce que justement ce sont ces différentes problématiques qui vous ont incité à donner ce titre ? Est-ce que justement cet homme qui tombe enceint, qui connaît la maternité et qui finalement balaie les différents clichés sur la parentalité masculine ou féminine, est-ce que c'est ce premier homme du monde ? Quel est le sens que vous donnez à ce titre assez énigmatique ?
Oui, c'est un peu ça. Y a un personnage dans le livre qui, je dirais que le titre, il passe par ce personnage puisque c'est une proche du narrateur qui finit par faire une peinture qui représente ce premier homme du monde. Elle peint une sorte de guerrier qui a tous les attributs virils du guerrier et qui en même temps est en train de s'adoucir et d'inclure dans sa panoplie quelques touches plus féminines.
Hein, un peu de tendresse.
Un peu de tendresse, absolument. Et donc cette femme qui peint cette toile dit au personnage à un moment donné que pour elle, être un homme plein et entier finalement, c'est avoir la possibilité bien sûr d'être un excellent danseur de tango et d'être viril d'une certaine façon, mais en même temps c'est aussi de pouvoir intégrer ces éléments de féminin, et en l'occurrence dans le livre, passer par l'expérience de la grossesse et porter un enfant.
Donc c'est bien le premier homme du monde.
C'est ça.
Alors, nous allons maintenant faire une deuxième pause musicale avec Aloïs Sauvage, L'Orage, extrait de l'album Jimmy. On se retrouve juste après.
Ses ailes est un jeu d'enfant. Rusé pour s'élever, demande tact et temps. Et chaque état de corps annonce la couleur. Y'a pas de tactique d'or pour contrer la douleur. Les couleuvres s'avalent, la chaleur se supporte. Les voleurs détalent, la valeur des choses s'étiole. Plus que des marécages, nauséabonds. Des arrêts sales avec matraque, attention, mauvais garçon. Des phrases cachées, des marées basses. Des femmes fâchées, des tarés crasses. Ils disent le monde est hostile, j'en dis la foule est docile. Pour fébrile face à porte à franchir. Et l'orage gronde. On a le dos courbé par les trompes d'eau qui tombent. Si tu nous croises dans la nuit, on a des tatouages invisibles, toi tu les vois aussi. Et l'orage gronde. On a le dos courbé par les trompes d'eau qui tombent. Si tu nous croises dans la nuit, on a des tatouages invisibles, toi tu les vois aussi. Alors faut s'enfuir. On craint plus rien, faut voir plus grand. On craint plus rien, faut voir plus loin. Alors faut s'enfuir. Bien trop d'excès, bientôt des faits. Bien trop d'excès, bientôt des faits. Alors faut s'enfuir. On craint plus rien, faut voir plus loin. On craint plus rien, faut voir plus loin. Alors faut s'enfuir.
Il faudra être prêt sans y avoir été préparé.
Des vitamines ou des vies acides. On veut du soleil, nous, pas des larmes salées. Facile de se taire ou compliqué de le dire. Docile, faste ou forcé de capituler. Quelle est notre marge de manœuvre? On est malléable à vous, ou bien borne ou bien aveugle. Faudra pas pleurer, pas pleurer si coup dans malléole. Faudra passer, dépasser des nos œuvres et aller hop. Coup de bâton dans côte tibia. Cabéton, danse dans rue au quotidien. Rien n'est décisif excepté la mort. Est-ce que des plaisirs fous apaiseront nos douleurs? Nos visages se perdent dans nos songes. On voit les nuages entourer nos sourcils et se fondre. Dans ces gouttes perlées qui descendent sur nos joues, faudra sans doute parler pour éponger ces cendres. Parce qu'il faut être impactant, jamais bavé sur les côtés. Le regard toujours imposant, joliment axé sur le gâteau. Alors faut s'enfuir. On craint plus rien, faut voir plus loin. On craint plus rien, faut voir plus loin. Alors faut s'enfuir. Bien trop d'excès, bientôt des faits. Bien trop d'excès, bientôt des faits. Alors faut s'enfuir. On craint plus rien, faut voir plus loin. On craint plus rien, faut voir plus loin. Alors faut s'enfuir.
Et il faudra être prêt sans y avoir été. préparé. Il faudra être prêt sans y avoir été préparé. Il faudra être prêt sans y avoir été préparé. Il faudra être prêt. Il faudra être prêt. Il faudra être prêt sans y avoir été préparé. Y'a beaucoup trop de gens qui m'ont dit. Beaucoup trop de gens qui m'ont dit s'enfuir dans des paroles approximatives, sans dire d'une parade pur produit qui promettrait une image fixe. C'est pas facile, c'est pas une vie, c'est pas l'idéal. Bordel, faut rien faire sans le vouloir, sinon les idées noires. Se mentir serait mieux que de tout dire, faiblir en omettant tous ses désirs. Et l'orage gronde, on a le dos courbé par les trompes d'eau qui tombent. Si tu nous crois dans la nuit, on a des tatouages invisibles, toi tu les vois aussi. Et l'orage gronde, le dos courbé par les trompes d'eau qui tombent. Si tu nous croises dans la nuit, on a des tatouages invisibles, toi tu les vois aussi. Alors faut s'enfuir, on craint plus rien, faut voir plus loin. On craint plus rien, faut voir plus loin. Alors faut s'enfuir, bien trop d'excès, bientôt des faits. Bien trop d'excès, bientôt des faits. Alors faut s'enfuir, on craint plus rien, faut voir plus loin. On craint plus rien, faut voir plus loin. Alors faut s'enfuir.
Il faudra être prêt sans y avoir été préparé.
C'était Aloïs Sauvage, L'Orage, donc extrait de l'album Jimmy. Vous êtes de retour sur Bac FM dans Les Voix du Livre avec Raphaël Alix, donc l'auteur du Premier Homme du Monde. Et Raphaël Alix, pour quelle raison avoir choisi cette musique d'Aloïs Sauvage?
Ben parce que c'est quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je trouve que ça incarne la modernité de la chanson française. Il y a des textes qui sont très écrits, qui sont très poétiques. Voilà, la musique les met en valeur, les magnifie. Enfin, c'est complet pour une très jeune femme en plus, qui fait beaucoup de choses, qui est vraiment une véritable artiste. Donc c'est un peu un coup de cœur.
Donc son écriture vous a séduit.
Oui, tout à fait.
Et justement, votre écriture, alors dans Le Premier Homme du Monde, donc qui, je le rappelle, est donc paru, vient de paraître aux éditions Les Avrils, votre écriture, elle, fait la part belle au corps, à son expressivité et à ses sens. Vous nous avez parlé de métamorphose tout à l'heure, de transformation. Comment avez-vous choisi ce style qui est à la fois direct et très expressif?
D'abord au niveau du corps, je pense que on en parlait un peu tout à l'heure, mais je crois que c'était important pour moi d'essayer d'être au plus près des sensations, c'est-à-dire dans la description de ce qui pouvait traverser le personnage au niveau de son corps à travers ce phénomène de grossesse. Je voulais vraiment être le plus juste possible dans la description de des effets de corps, hein, des effets de sensations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça avait été important de pouvoir aussi partager les choses avec ma compagne quand elle était elle-même enceinte. Ça me renseignait beaucoup. Voilà, ça c'était important.
Votre écriture est quand même extrêmement directe, justement. Vous avez des phrases très précises. C'est un choix d'avoir envie plutôt de montrer les effets produits par la transformation plutôt que la transformation elle-même sous forme de description, par exemple.
Oui, probablement. Je pense que quand on est dans cet effet direct, comme vous le dites, on a sûrement pas mal d'efficacité pour faire passer les choses, plutôt que d'être dans ce qui pourrait être plus descriptif.
Oui,
même si j'essaie de l'être probablement par ailleurs, dans des choses plus descriptives. Mais pour ce qui concerne les phénomènes qui touchent le corps, la grossesse, les sensations, oui, je pense que c'était plus efficace d'être dans ce mouvement-là.
Oui, d'ailleurs, il faut préciser que ça n'est pas du tout, par exemple, descriptif de manière médicale ou quelque chose. Pas du tout. On est vraiment dans l'expression des sens. Et pas seulement, d'ailleurs, au niveau de la description de la métamorphose et de la grossesse elle-même, mais aussi, puisque ce sont des danseurs de tango, aussi au niveau de la danse et du jeu du corps. Donc ce sont déjà des personnages qui sont physiquement à l'aise avec leur corps, à la base.
Oui, alors, à l'aise... Ils le sont devenus probablement grâce au tango. En particulier Rose, la compagne du narrateur. Hein, j'ai essayé, mais de façon assez discrète, de présenter ces personnages quand même comme étant des personnages un petit peu à part, un peu en marge qui ont chacun des failles et des fêlures. Et
oui, on les sent bien. Dès le début, on sent bien les fêlures, les relations qui existent entre eux dans ce couple qui est à la fois, bah, comme dans le tango, hein, c'est à la fois parfaitement harmonieux et en même temps avec beaucoup d'à-coups, on va dire.
Oui. Oui, c'est ça.
La métaphore du tango est très, très symptomatique et très révélatrice des relations de ce couple.
Oui, oui, c'est ça. Et puis, moi, je les ai imaginés comme étant, oui, des personnages pas forcément très à l'aise avec leur corps au départ, hein, au départ de leur existence, ayant connu des parcours un peu chaotiques, et puis trouvant, par l'intermédiaire du tango et de la rencontre amoureuse, la possibilité de se construire, justement, au niveau du corps et de l'image du corps, surtout. Hein, chacun se construisant une image d'homme pour Marcus, une image de femme pour Rose, et trouvant une forme d'équilibre dans la danse. Et cet équilibre, évidemment, venant être bousculé, bouleversé par la grossesse au masculin.
Alors, il faut dire aussi que, justement, ce roman est plein d'humour, parce qu'il y a beaucoup de petites touches humoristique, parfois c'est un peu grinçant, parfois c'est un peu ironique. Il y a aussi des côtés un petit peu satiriques dans le traitement des médias, mais aussi dans la manière dont les personnages jugent ce qui arrive. Quand on suggère à Marcus qu'il ferait mieux d'être pris pour une femme, que ce serait quand même plus simple. Enfin, il y a beaucoup de petits éléments un petit peu humoristiques. Pour quelle raison avoir choisi cette veine un petit peu comique ?
Ben ça, je pense que c'est quelque chose qui me vient assez naturellement. C'est plutôt ces formes-là que j'apprécie, en général, dans mes lectures ou au cinéma. Donc c'est naturellement par cette forme-là que j'ai envie de passer quand moi-même je me mets à l'écriture. Et je suis content que vous puissiez souligner ça et y avoir été sensible, parce que effectivement c'est quelque chose d'important pour moi. Que ce soit traversé comme ça de pointes d'humour, d'un peu de sourire, ça fait vraiment partie prenante de mon écriture.
Oui, le texte en est émaillé, hein, donc je pense qu'il serait difficile de passer à côté.
Bon, et c'est vrai que c'est...
Ah non, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est vrai que c'est très agréable parce que, en fait, le sujet est quand même assez lourd, d'une certaine manière. Parce que, il se passe quand même des choses absolument anormales.
Oui.
On aurait pu écrire un roman terrifiant sur cette question, mais pas
c'est
du tout.
C'est un sujet lourd que je voulais traiter de façon légère.
Eh bien, ouais. c'est le sentiment qu'on retire. C'est un sujet lourd traité de façon légère et qui fait néanmoins beaucoup réfléchir. Je pense que l'humour permet aussi une certaine distanciation, à la fois peut-être pour l'auteur, je ne sais pas, mais pour le lecteur en tout cas, qui peut voir un petit peu les choses d'une manière plus détachée et donc moins inquiétante peut-être, ou moins affolante. C'est vrai qu'un homme enceint, eh bien ça ne s'est jamais vu, donc ça peut avoir quelque chose de surprenant. Vous qui êtes psychologue et psychanalyste, est-ce que votre métier a eu une incidence sur l'écriture de ce roman ?
Oui, ça c'est évident que ça a eu une incidence. Alors, d'une part, je dois vous dire avec un peu d'humour, mais enfin c'est bien réel, que souvent dans les services de psychiatrie, on peut avoir des gens qui sont enceintes sans l'être vraiment, hein, qui le sont imaginairement, qui sont persuadés de ça, sous forme délirante. On peut sourire comme ça en en parlant, mais c'est pas forcément très drôle pour eux. Et puis par ailleurs, mon travail m'influence parce que je m'aperçois que moi je suis amené à essayer de construire des personnages pour lesquels j'ai de l'empathie, de la tendresse, et qui sont des personnages qui sont quand même, comme on le disait tout à l'heure, un peu fêlés, un peu à la marge, un peu particuliers. Hein, et
oui, on le ressent bien.
Ils peuvent renvoyer à tous ces gens que je suis amené à rencontrer, à côtoyer dans le cadre de mon travail.
Oui, donc vous avez souhaité écrire un roman dans lequel on puisse facilement s'identifier aux personnages, justement parce que ce sont des personnages imparfaits, avec des failles.
Oui, probablement. Je n'avais pas pensé les choses comme ça, mais en tout cas, moi, ce sont des gens et des personnages auxquels je peux m'identifier facilement. Est-ce que ça a un effet facilitateur, d'une façon générale ? Peut-être. Vous avez raison.
C'était juste une question pour savoir comment vous en êtes venu à choisir ces personnages. Parce que vous avez donc choisi un couple de danseurs. Qu'est-ce qui vous a incité à choisir un couple de danseurs de tango ?
Oui, alors pour le couple de danseurs, l'idée, je crois, m'est venue quand j'ai assisté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est assez impressionnant et beau à voir. J'ai assisté à des scènes sur les bords de la Seine à Paris, où les gens, comme je le décris dans le livre, se mettent à danser sur des petits amphithéâtres qui sont sur les quais de la Seine, près de Jussieu. Donc, quand les beaux jours arrivent, on peut aller se balader là-bas et on peut regarder les gens danser très sérieusement le tango ou d'autres danses. Hein, donc,
ça vous voilà. a impressionné.
J'ai trouvé que c'était, oui, c'était très beau à voir et que de camper un roman et de déroulement d'une intrigue dans cet environnement pouvait être une bonne idée. Oui, absolument. Puis après, il y a eu la dimension choix de la danse aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, la danse, ça assigne quand même pas mal les gens par rapport au genre. Hein, c'est-à-dire que c'est souvent très normé, la danse. Il y a l'homme, il y a la femme, chacun son rôle. Donc ça permettait aussi d'avoir un élément de départ comme ça.
Donc vous avez choisi les personnages par osmose, en étant marqué par la beauté, en fait, la beauté d'une danse.
Oui, tout à fait.
Donc c'est un émoi esthétique qui vous a, contribué à la construction de ce roman du premier homme, le premier homme du monde. Quelle est votre actualité littéraire maintenant, puisque c'est votre premier roman? Est-ce que vous avez de nouveaux projets d'écriture?
Oui, j'ai de nouveaux projets. J'ai recommencé à écrire, alors d'autant plus que ce roman a été, sa sortie a été retardée à cause de la crise sanitaire. Il devait sortir au mois d'avril 2020, donc ça a été retardé de quasiment une année. Du coup, du temps s'est écoulé et moi je me suis remis petit à petit au travail, voilà.
Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ou c'est encore un secret?
Ben c'est pas encore très très abouti, mais en tout cas je suis reparti avec l'idée de trouver quelque chose qui me permettrait à la fois d'être dans quelque chose qui décolle de la réalité. Moi j'aime bien passer par l'imaginaire, par la fiction, oui, la fable, et en même temps trouver un propos qui connecte les choses au monde dans lequel on est. Voilà, donc j'ai essayé de trouver quelque chose comme ça. Alors peut-être je peux vous dire un mot par rapport au propos. Et là, il s'agirait d'aborder peut-être un peu les écueils du ce qu'on appelle le néolibéralisme. Voilà, des grands mots comme ça, mais oui, d'essayer de dire quelque chose de ça.
Voilà. Donc très ancré dans le réel. Eh bien, on a très hâte de savoir ce que ça va donner, parce que quand on voit le résultat du premier homme du monde sur l'histoire de l'homme enceint, on se dit que sur le néolibéralisme, on va avoir de belles surprises en perspective.
J'espère.
merci encore Raphaël Alix d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Et j'invite tous les auditeurs à aller découvrir ce roman étonnant et à la fois familier, vous verrez. Le premier homme du monde, donc, aux éditions Les Avrils. Découvrir cette histoire et réfléchir. Voilà, les voix du livre, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Cette émission a été réalisée et montée par Laetitia Durieux, présentée par Claire Garand, en compagnie de l'ado accro au livre et de Fanny de Citre, de la librairie Le Cyprès Jean de la Lune, du réseau de librairies indépendantes Initiales. Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site de BAC FM et sur memorialiste.fr. À bientôt pour de nouvelles aventures livresques.